Témoignages, échanges, discussions. Au réseau Cogeco, voici Dan Bigra.
Alors, ma question, tout de suite, c'est est-ce qu'on exige que vous parliez anglais au travail? C'est une question importante parce qu'il y a des données très inquiétantes qui sortent là-dessus. Le pourcentage est absolument hallucinant. Je ne savais pas qu'on était revenu à un niveau comme ça. J'ai l'impression que la loi 101 a comme perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dents. Appelez-moi pour m'en parler, pour me le dire. Est-ce qu'on exige que vous parliez anglais à la job? Vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou si vous êtes en dehors de la région métropolitaine de Montréal, c'est le 1-866-790-9850. Et là, tout de suite, on va parler à M. Denis Bolduc, qui est secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Bonjour, M. Bolduc.
Bonjour, M. Migrant.
63 % des emplois exigent l'anglais au travail. Là, on va parler de niveau, je vais vous dire. Parce que, par exemple, si tu travailles dans le tour de la bourse puis tu parles à New York tous les jours, je peux comprendre. Mais c'est pas 63 % des emplois qui sont comme ça et qui nécessitent la langue d'affaires internationale, de un. Et de deux, il y a même les endroits où il est exigé que ça soit la langue de communication au travail. Tout leur communiqué, tout l'écrit ne se communique qu'en anglais seulement. On n'a-tu rien retenu de la loi 101?
Oui, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. D'abord, je voulais vous remercier de consacrer une bonne partie de votre émission aux faits français au Québec. Je pense que c'est important. On n'a pas assez souvent l'occasion d'aborder cette question-là de la protection de la langue française. Je fais un peu la même réflexion que vous, M. Bigra. Je pense que les gouvernements ont fermé les yeux, ont tourné la tête sur cette question-là pendant trop longtemps. Et ça s'installe pas en une situation comme celle-là. Ça s'installe pas en 2-3 ans. Là, ça s'installe en quelques décennies. Et puis, pour réparer ça, ben ça va prendre du temps également. Parce que, comme vous le dites, là, exiger à l'interne que les communications à l'interne dans une entreprise au Québec à 40 % qu'on parle anglais, c'est difficile à comprendre. Là.
C'est pas notre langue à nous. Moi, j'ai souvenir quand j'étais petit, c'était un incident qui était souvent mentionné, mais moi, je l'ai vu de mes yeux vus. J'avais été manger avec mes parents. J'étais petit au centre-ville sur la rue Sainte-Catherine et puis une serveuse francophone avait interdiction de nous parler français. Mon père s'est quasiment battu avec le gérant puis finalement, on a décidé de jamais revenir là. Alors, on s'était dit qu'avec la loi 101, oui, ça prenait des dents un peu à cette loi-là. Et ça a pris du temps à l'appliquer. Il y a toujours eu de la résistance. C'est certain, plus gros c'est la machine, plus il va y avoir de résistance, c'est dur à bouger, plus c'est gros. Mais là, tranquillement, on avait l'impression qu'on y arrivait. Puis là, on s'est aperçu que par en arrière, par en dessous, sans qu'on s'en aperçoive trop, il y a un qui grugeait un petit centimètre ici, l'autre un pouce par là, puis etc. Puis là, on est revenu jusqu'où?
Exactement. Je vais pas terminer de lire le rapport. Je l'ai regardé quand même un premier coup d'œil là, un peu en diagonale. Puis il y a un truc également qui me bouleversait quand je disais ça. Ça se trouve à la page 57 du rapport, un tableau 4.1. À compétence égale, une fois sur quatre, c'est ce que les employeurs là disent là. À compétence égale, une fois sur quatre, l'employeur va retenir le candidat bilingue, peu importe si c'est exigé ou si la tâche l'exige ou pas. Alors, il y a une discrimination envers les francophones au quart à 25 % dans des situations comme celle-là. C'est de cette façon-là qu'on tue une langue. On la tue à long terme.
La discrimination à l'emploi semble... C'est-à-dire que ça... Ça ouvre les portes à autre chose. On sait très bien que ces temps-ci, enfin depuis septembre 2001, tu as plus de chances de trouver une job si tu t'appelles Denis que Mohamed. Ça, déjà, on le sait. Il y a déjà de la discrimination. Mais il y a de la discrimination contre les francophones, clairement. dans des endroits où c'est pas nécessaire de parler anglais. Alors là, on parle complètement d'autre chose. On parle pas... Je suis d'accord, moi. Ça prend un certain niveau d'anglais si tu fais de la relation internationale. On sait que l'anglais est le business language sur la planète. C'est comme ça que les gens se repèrent en faisant de l'international. Pas tous les pays, évidemment, mais c'est la langue la plus parlée commercialement à travers la planète. Donc, je comprends qu'on demande certaines compétences en anglais pour ces jobs-là, mais ça semble pas vraiment être ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne veut plus appliquer la loi 101 qui a été passée par mon ex-beau-père d'ailleurs en 1967 par le docteur Lorrain. Et j'ai l'impression qu'on a grugé dedans depuis tout ce temps-là, tranquillement. Et souvent, je me demande comment on accepte des aberrations. Et c'est tout le temps la même explication. C'est un petit peu par petit bout, comme on dit en québécois.
Exact. Le message macro, là, subliminal, qu'on envoie quand on agit comme ça, là, c'est qu'on préfère finalement une personne qui parle anglais, même si on n'a pas, c'est pas une exigence. Le message qui est livré, c'est si tu veux bien gagner ta vie au Québec, là, il serait préférable que tu parles l'anglais. Mais la réalité devrait être le contraire, tout à fait le contraire. On devrait pas, ça devrait pas être un obstacle pour avoir une job de parler français au Québec, là. Voyons donc. Moi aussi, comme vous, je comprends que dans certains secteurs, d'ailleurs, on en représente à la FTQ, là, on a beaucoup de gens, des membres qui sont dans le secteur aéronautique.
Hein? Oui, oui.
Et dans
c'est
le secteur
bon
aéronautique, tous les carnets là, de directives, les manuels de bord, tout est en anglais parce que ça se passe, c'est planétaire.
Oui, dans l'avion, c'est planétaire, mais pas dans l'endroit où on les fabrique.
Exactement. Pourquoi le personnel de bureau ou la comptabilité dans une entreprise du secteur aéronautique, il exigerait l'anglais pour embaucher une personne? Pour les gens qui travaillent avec les manuels, des ingénieurs, qui travaillent avec l'extérieur, d'autres pays, tout ça, on peut le comprendre. Mais c'est pas vrai que dans une entreprise comme celle-là, tout le monde doit parler anglais. C'est pas vrai. Ça se peut pas.
Non, c'est un recul du fait français. C'est un puis moi je crois qu'il y a un mouvement volontaire là-dedans. Ça n'a jamais été accepté la loi 101. Puis il semble avoir chez beaucoup d'entreprises un désir de gruger là-dedans. Je comprends le langage international, tout ça. Je comprends. Puis il faut faire du commerce. Faut rester ouvert aux autres. Je comprends.
Oui.
Mais pourquoi entre nous? J'ai l'impression que là, on est de moins en moins au Québec, qui est censé être une province francophone, puis on est de plus en plus des Canadiens, qui est censé être un pays bilingue.
Puis à la FTQ, on fait des efforts quand même importants pour faire la promotion du français dans les entreprises. Dans les derniers mois, là, on a produit un documentaire sur le sujet, la francisation en milieu de travail. Ça s'appelle. On devait le lancer juste avant... La pandémie, là, ça devait être lancé publiquement dans une salle, mais on a été en mars, on a dû le reporter, puis finalement, on a fait un lancement virtuel en mai. On a un documentaire là qui s'appelle « Langue à l'ouvrage, migrer vers le français au travail ». Puis c'est l'histoire de travailleurs, notamment à Saint-Anselme, dans la région de Québec, une entreprise qui emploie des immigrants dans son entreprise, puis qui s'est aperçu que il fallait que ces gens-là parlent français, puis qu'ils font des efforts super importants pour donner des cours de francisation dans l'entreprise aux travailleurs. Puis ça a changé. Il y a des témoignages.
Mais c'est certain, les travailleurs immigrants dont on a besoin, soit dit en passant, demandez-vous c'est qui était dans les CHSLD, là, nos anges gardiens, là, beaucoup, beaucoup d'immigrants. Si, ils veulent travailler au Canada, très bien, ils apprennent l'anglais, ils font ce qu'ils veulent à Toronto puis à Vancouver. Mais au Québec, on est vraiment un pays qui parle français, tous.
C'est notre langue. C'est notre langue. Alors, les gens, on peut... à accueillir des gens de l'extérieur, mais il faut mettre en place également des processus pour leur
pour les aider, hein, parce que souvent, on leur reproche la qualité de leur français, puis on s'aperçoit qu'ils n'ont pas été aidés du tout. Ils ont dû s'arranger dans la rue puis apprendre à gauche et à droite. Monsieur Bolduc, je vous gardais avec moi, mais j'ai envie d'entendre l'appel du public, les gens qui nous téléphonent. Et gênez-vous pas à répondre à ma place, ça me fait plaisir, vous êtes plus qualifié. On a Mokhtar au bout de la ligne.
J'ai pas vos talents d'animateur.
Non, mais pour répondre aux questions, en sachant de quoi vous parlez, là, moi, je veux vraiment entendre ça, je suis très content. Là. Okay. On a Mokhtar au bout de la ligne. Bonjour, Mokhtar.
Oui, bonjour, M. Bigras, ça va, bon. Oui. M. Bigras, regardez, ici au Québec, c'est une province francophone dans un pays anglophone, un pays avec plusieurs provinces. Et nos voisins, c'est des Américains en plus. Parler anglais, moi je parle extrêmement bien en français. Je peux vous écrire un livre, une littérature. En anglais, je suis à 60% en anglais et tout. Mais il faut, si vous négociez avec des traders, si vous négociez avec des gens d'affaires qui parlent anglais et tout, qui ont des milliards ou des millions, vous leur dites « Oh, vous parlez pas français, alors allez vous faire foutre ». Mais non.
Mais non, mais monsieur Mokhtar, on en a parlé de ça, on est d'accord avec ça. Aussitôt qu'il y a par exemple, du commerce international ou, comme vous dites, du trading, j'ai même mentionné, je l'ai dit rapidement, les gens qui travaillent autour de la bourse, c'est évident qu'on s'attend à ce qu'ils parlent anglais. Et on est d'accord avec ça. Et même la FTQ est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est pas ça que je trouve troublant. C'est les communications internes. Dans un bureau plein de francophones ou dans une usine montage à la chaîne francophone qui doivent se faire en anglais, c'est des choses comme ça que je trouve plus inquiétant. Mais ce que vous dites, vous avez raison, M. Mokhtar. On est entièrement d'accord. On l'a d'ailleurs dit en début d'émission. Merci de nous avoir appelés. On va passer à Isabelle tout de suite. Bonjour, Isabelle.
Bonjour, M. Bigraff. Bonjour. Je vais essayer de faire bref puis aller par gradation. Tout début, je vais vous demander d'essayer de trouver une carte d'anniversaire pour un adolescent en français à partir de Pointe-Claire, descendant Kirkland, Butterfield, compagnie. C'est impossible. Aucune carte de trouver une carte d'anniversaire en français. Ça se fait pas. Service en français, il faut l'exiger. La personne va te répondre en anglais, tu lui parles en français, il te répond en anglais. Ensuite, pour mes études en santé, si tu n'es pas capable de lire l'anglais, tout bad, tu l'auras pas ta maîtrise, ton doctorat. Parce que la majorité des grosses recherches et études sont américaines. Ils ne basent pas sur ce qui est fait en France, au Maroc, c'est l'anglais. Fait que tu n'as comme pas nécessairement le choix. Et ensuite, autre exemple bien simple, dans les assurances, j'ai des amis qui sont unilingues anglophones. Oui, unilingues anglophones, toute leur vie. Ils ne parlent encore qu'anglais, toute leur famille. Ils travaillent chez Bell Canada, Sun Life, et tout n'est qu'en anglais. Et encore pire, il y a dans d'autres contacts, eux sont bilingues, quadrilingues, même plusieurs langues. Partout dans le Canada, ils ont une bonus puis une prime parce qu'ils parlent français et anglais. Mais au Québec, tu l'as pas ta bonus parce qu'au Québec, tu es obligé d'être bilingue, même si c'est souvent, même majoritairement, pas appliqué.
Oui, donc, monsieur
ailleurs,
Bolduc.
Ils vont faire leur service anglophone au Québec. Oui. On va avoir payé à la prime le petit bonhomme en Ontario qui va faire la même job. Oui. Fait qu'on va payer moins cher pour des services en anglais parce que la personne parle en français.
Oui, je comprends. Merci beaucoup, Isabelle. Monsieur Bolduc, qu'est-ce que vous dites de ça? Bonne journée, Isabelle.
Monsieur Bolduc. C'est pas une tare, là, c'est pas une tare de parler anglais, loin de
non,
là.
Non.
Vous l'avez bien dit, là. Mais gardez, là, dans l'étude, là, on dit que à Montréal, ville de Montréal, ses arrondissements ou les municipalités, là, de Montréal, à 50%, la moitié, font du bilinguisme ou la connaissance de l'anglais, là, une exigence à l'emploi. La plus grande ville du Québec, la ville c'est un fait, la deuxième plus grande ville francophone au monde, 50% des municipalités ou arrondissements de la ville demandent que les gens parlent anglais.
Ouais, bon, si on habite à Hampstead ou Westmount, peut-être qu'on peut comprendre un peu, mais on a beaucoup plus d'arrondissements français qu'anglais. On va en parler au retour, Monsieur Bolduc. Je vais vous garder jusqu'à la fin de l'émission. Et de retour, après la pause, on va prendre d'autres appels.
Pour connaître l'impact dans votre vie. au réseau Cogeco. Vous écoutez Dan Bigra.
Alors, je vous remets en tête que 63 % des emplois à Montréal, on demande est-ce que vous parliez anglais. Alors, je me demande, est-ce qu'on exige que vous parliez parler anglais au travail? Mais je vais élargir ma question à toutes les relations. Je sais pas, moi, au centre d'achat, partout, est-ce qu'on fait nos courses? Est-ce qu'on est en train de se réangliciser un peu et puis qu'on n'a pas un peu, comme dirait Mario Tremblay, échappé à la POC? Je vais prendre un premier appel tout de suite, c'est Patrick. Salut Patrick. Patrick? Est-ce qu'on a un Patrick? Il est là? Patrick? Bon, ben, on y reviendra tantôt.
Bon, ah, bonjour,
il est là,
allô?
Patrick? Allô?
Bonjour.
Bonjour, excusez, je pense que j'ai
quelqu'un qui... Non, non, il n'y a pas de problème. Alors, ça doit être la personne anglophone qui prenait l'appel, non.
Il a fait exprès briller les lignes, saboter nos affaires.
Oui, exact.
OK, OK.
Moi, exemple concret, centre-ville, place Alex Néon,
oui.
McDonald's, s'il y avait une place qu'on devrait être servi en français et compagnie, la personne qui nous sert seulement qu'en anglais. Donc, je demande à parler en français, elle me dit « je parle pas français », en anglais, bien sûr. Je demande à parler au gérant. Le gérant, il vient, puis il me dit, ben, c'est comme ça. Là, nos employés, elle parle juste en anglais. Puis, si vous n'êtes pas content, ben, il faut aller, j'imagine, acheter ailleurs ou peu importe. Mais il y a beaucoup de... Quand tu te présentes la première fois d'un magasin, c'est souvent le « aïe » en premier, à place du « bonjour » ou... C'est un petit peu décevant.
Oui, c'est décevant. En même temps, il faut être créatif. Quand le ministre, Jeanine Barrette, a dit « je vais mettre fin au « bonjour, hi », on a tous fait la même réaction. Comment? Alors, ouais, à l'embauche, à la job, on peut comprendre, mais interdire aux gens de dire bonjour, hi, il n'y a aucun moyen de faire ça dans la vie, là.
Non, il n'y a aucun moyen, mais si tu travailles à Montréal, tu restes à Montréal, la première langue, c'est français, ben, commence par le bonjour, puis le hi après, si tu veux, mais accueille-moi pas avec un hi en premier, c'est...
Oui, puis il ne faut pas non plus... Il faut être prudent dans nos impressions. Des fois, on pense que c'est les immigrants qui sont comme ça. Puis mon metteur en
nombre... Non, non, il n'y a pas juste les immigrants, du tout.
Non, mais même les immigrants sont écoutez, c'est parce qu'on sert souvent des exemples des immigrants, par exemple, qui parlent un français approximatif. Mais moi puis mon metteur en nombre, la plupart des immigrants qu'on connaît sont trilingues. Ils ont leur langue d'origine, le français, l'anglais, et puis souvent, ils écrivent le français mieux que nous. Alors, tout ça est possible. C'est comme quand la loi 101 a exigé qu'on envoie nos enfants à l'école en français en premier. Ben, c'est comme si on avait laissé tomber tout ça. Là. Ça a des conséquences, ces mesures-là. Et puis, effectivement, là, de ce que je vois, Patrick, dans la rue, ben, les conséquences vont prendre des années à corriger parce que ça s'est installé pendant des années. Merci, Patrick. Merci beaucoup.
Tout à fait d'accord avec toi. Merci. Continuez votre beau programme.
Merci. Bonne journée. Merci. On a avec nous, monsieur... pardon, monsieur Bolduc, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, j'allais dire, M. Ligrand, je le vis moi aussi, là, tout le monde le vit, là, mais moi, j'ai cessé de fréquenter un restaurant ici à Montréal, là, pas dans l'ouest de Montréal, là, centre-est de Montréal. Les serveuses, il y avait 3-4 serveuses qui parlaient en français. J'allais là assez régulièrement jusqu'au jour où les clients francophones, les serveuses francophones, jusqu'à le jour où je m'aperçois que le cuisinier, lui, il parlait anglais. Et donc, toute la communication à l'intérieur, là, sauf l'échange entre les serveuses et les clients, se faisait en anglais parce qu'il y avait une personne dans la place qui parlait anglais. Alors, j'ai cessé,
pour l'accommoder, lui.
J'ai cessé, oui, pour accommoder, lui.
Moi, je comprends, mais c'est un restaurant. Là, si c'est un phénomène de société, c'est beaucoup plus inquiétant.
Je me suis déjà présenté dans un hôtel de Montréal, centre-ville. Je cherchais un endroit que je savais que j'étais pas loin. Et je pose la question à la personne qui était là, l'employé, je pose la question en français, pas capable de me répondre, elle comprenait pas ce que je demandais, parce qu'elle parlait uniquement anglais. On est dans le milieu touristique, dans une ville francophone.
Bonjour, hi. Ouais. Merci, M. Bolduc. Je partais pas là. Je vous garde, je vous esclavagise un peu encore. Ça sera pas long. On reçoit Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec français. Monsieur Laporte, je vais vous poser une question à part, parce que évidemment, quand on vit dans un milieu français, il est beaucoup plus facile de l'encourager. Ça vient un peu naturellement parce que ça se transmet de bouche à oreille, etc. Quand on vit sur Internet, c'est plus compliqué.
Monsieur Laporte. Ah, ben oui, mais ben, d'abord, bonjour, monsieur Bégui.
Oui, bonjour, j'aurais dû vous dire bonjour. Je suis mal poli. Bonjour. Oh, ça va. Content de vous entendre.
Écoutez, Internet, la mondialisation, l'hégémonie de l'anglais, c'est une réalité universelle.
Oui.
À travers le monde, tous les pays, tous les peuples, évidemment, doivent composer avec cette réalité-là. Hein?
Oui.
Et pour autant, ce ne sont pas tous les peuples qui s'anglicisent collectivement et institutionnellement. Par exemple, là, aux Pays-Bas, il y a un taux de bilinguisme, de multilinguisme qui est extrêmement élevé. Mais il ne viendrait jamais pour autant à l'esprit des dirigeants de ce pays-là ou des Néerlandais eux-mêmes que leurs institutions, que leur commerce, que la vie publique à Amsterdam ou ailleurs se passe en anglais, par exemple. Même s'ils maîtrisent l'anglais, qu'ils sont bilingues, etc. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une confusion fondamentale entre la réalité de l'anglicisation du Québec pris dans sa collectivité et la question de la maîtrise des compétences linguistiques dans d'autres langues, y compris, bien sûr, l'anglais. Alors, voilà, dans une société normale, puisque vous me posez la question, 99% des transferts linguistiques des allophones se font vers la langue nationale. Hein? D'ailleurs, au Canada anglais, 99% des transferts linguistiques se font vers l'anglais. Or, au Québec, c'est à peu près 50%. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à intégrer, à franciser, bonne part des nouveaux arrivants allophones. Alors que, pourtant, quand vous arrivez dans un pays normal, eh bien, vous devez normalement maîtriser la langue nationale. Si, par exemple, moi, je deviens citoyen italien, là. Évidemment, l'État italien va me parler en italien. Les commerces en Italie vont me parler en italien. Donc, c'est toute la question de la langue commune et du statut du français au Québec qui devrait être un statut linguistique normal tel qu'on le voit ailleurs. Et on n'y parvient pas.
Je comprends. Monsieur Bolduc, j'entends grenier. Vous avez parlé.
Non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, le réflexe naturel là devrait que on accueille les gens dans les commerces, dans l'espace public, dans la langue du pays qui nous accueille ou de la province qui nous accueille dans ce cas-ci, le Québec. Donc, on devrait accueillir les gens en français, donner les services en français, puis même si la personne qui répond peut parler l'anglais ou d'autres langues.
Oui, mais permettez-moi de vous relancer sur quelque chose. Il y a eu un bout de temps où on blâmait beaucoup les immigrants de ne pas parler suffisamment français. Et on s'est aperçu, à la grande surprise de tout le monde, qu'on ne les accompagnait pas. C'était de notre faute. C'était de la faute de notre société. On les aidait pas à se franciser. Alors là, on est très, très loin de la loi 101. Ça fait longtemps. Elle a été passée en 77. C'est une loi qui est vraiment très, très loin dans nos mémoires, je crois. Je vous pose la question, en bon québécois, à cette heure, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, là, que je vous ai parlé du documentaire qu'on a produit sur le sujet, là. Totalement d'accord avec vous. Il faut accompagner les gens dans l'apprentissage du français au Québec. Et il faut pas dire bienvenue au Québec. Voici votre carte, vos papiers pour rester chez nous là pendant un certain temps ou pour toujours. Puis débrouillez-vous avec ça.
Parce que l'accueil, ça se fait des deux bords. On leur demande de s'intégrer, mais ça, on n'a même pas. Les outils pour leur montrer à parler français, on peut pas blâmer les immigrants, là. C'est notre faute.
Il faut leur donner le goût. Il faut leur donner le goût également. Il faut les accompagner. Il faut pas. Oui,
mais leur donner le goût, c'est donner les cours puis les à mesure qu'on parle. Moi, j'ai appris à parler à New York parce que j'étais là un an quand j'étais jeune puis je jouais avec un band de là-bas puis il y avait personne. Je voulais aller aux toilettes. Je pouvais pas le demander. Il y avait pas un maudit francophone. Fait que là, j'ai été obligé d'apprendre assez rapidement. Puis mon Dieu, après ça, je commençais à avoir du fun. Ça m'intéressait. J'avais envie d'en apprendre plus. Je faisais plein d'erreurs puis on se retrouvait et c'était le fun. C'est comme ça qu'on intègre les gens, c'est en leur montrant. Puis là, ils découvrent la langue, ils découvrent qu'ils peuvent s'exprimer. C'est très amusant. Je dois apprendre... Allez-y.
Dans l'étude, il y a un chapitre qui parle de cela, là, et il y a plus d'entreprises qui offrent la formation pour améliorer l'anglais, hein, 75%, le chiffre qu'on donne dans l'étude, que pour de la formation pour améliorer le français.
où on est à 57 %.
Okay. Alors, je pense qu'on va se voir.
Pour l'anglais que pour le français.
Je vais vous dire en français, on va devoir faire du multi-questioning. Il va falloir se questionner sur beaucoup d'aspects de comment on applique notre français dans notre terre, qui est française. Je vous garde tous les deux, on va en reparler après la pause.
Approfondir le sujet de l'heure jusqu'à midi. Vous écoutez Dan Bigras.
Je resimplifie ma question. On a plein d'appels, mais continuez à appeler. Je vais essayer de tous vous prendre autant que possible. Est-ce qu'on exige de vous que vous parliez anglais? Pas juste au travail, partout. Dans la province de Québec. Tout de suite, on va prendre un appel. Je vous rappelle que avec nous, on a toujours Denis Bolduc et Maxime Laporte, qui sont respectivement secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ, et président du mouvement Québec-Français. On a un premier appel. Guylaine, salut Guylaine.
Oui, bonjour M. Bigras. C'est la première fois que j'appelle en onde, fait que je suis un peu nerveuse.
Ah, allez-y, j'étais nerveux moi aussi la première fois.
OK. Ben moi, je suis une ancienne franco-ontarienne. J'habitais dans un petit village près d'Ottawa, fait que très francophone. Et en 2006, j'ai déménagé à Montréal, fait que là, près d'Atwater. Puis je me souviens, je m'étais dit, OK, là, faut que j'aiguise mon français, faut que je parle bien. Parce que dans mon coin, un grille-pain, c'est un toaster. Puis
Beaucoup de Québécois, c'est un toaster. Okay, c'est un anglicisme qui est là depuis des siècles, oui. Je crois, même avant l'électricité, je pense.
Bon, fait que la windshield, puis bon, mais je m'étais dit, OK, là, faut que je me fasse. Fait que quand j'ai déménagé là, j'en revenais pas comment c'était anglophone. Et c'était plus anglais que mon coin en Ontario. Mais je me suis dit, OK, mais c'est pas grave, je me suis adaptée. J'ai adoré Montréal. Et en 2010, on a déménagé dans le West Island. Pour pas dire l'ouest de l'île. Puis
justement, on le dit en anglais, c'est assez révélateur quand même.
Mais je suis très, très, très bilingue. Même langue maternelle, c'est le français, puis j'y tiens comme vraiment, vraiment.
Non, puis vous le parlez très, très, très bien, puis on n'a aucune critique à vous faire. Puis c'est parfait d'être bilingue, c'est fantastique d'être bilingue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si notre société québécoise est en train de perdre du chemin qu'on a accompli péniblement pour promouvoir notre première langue, qui est le français, et qui fait partie de notre identité. Vous savez, ces choses-là, là, c'est des repères importants. Si on va dans les pays asiatiques, eux autres, c'est leurs arts martiaux. Mon karaté est meilleur que ton judo. Et ça, c'est de la grande provocation. Alors, leur identité passe beaucoup par leurs arts martiaux. Puis nous, c'est par notre langue. On se retrouve comme ça. Alors, c'est surtout ça, mais on veut pas interdire à qui que ce soit d'être bilingue. Au contraire, c'est un plus. Ouais. Je suis content. Mon fils parle parfaitement anglais. J'en suis très, 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 très content.
Oui, mais puis après plusieurs années, là, moi, j'ai aucun problème à me faire servir en français dans l'ouest de l'île, comme la dame a mentionné tantôt. Je suis dans le coin de Pointe-Claire, dans ce coin-là, puis au Walmart, il y a des cartes en français. J'en ai acheté une la semaine passée, là. Je m'adresse toujours en français, puis il y en a qui baroguinent un peu le français, mais on se débrouille bien.
Et là, vous savez, Guylaine, quelqu'un qui baragouine, bon, on peut critiquer, mais déjà, pour moi, il fait un effort. C'est juste qu'il part de plus loin puis il fait un effort. Moi, celui qui baragouine, je le remercie.
Parce que moi, quand je parle parmi les Anglais, ben là, ils vont le savoir que, OK, puis même, ils vont des fois retracer mon accent franco-ontarien.
Oui. Qui est très petit, je vous signale. Vous n'avez pas un gros accent partout.
Avec le temps, je l'ai un peu perdu, mais c'est que je suis venue en conclusion à me dire, ben moi, quand j'habitais en Ontario, puis quand j'y retourne régulièrement, dans mon village, si je me fais servir juste en anglais, disons Tim Hortons, ça me fait un petit pincement comme parce qu'on est très franco-ontarien. Fait que je me dis à Montréal, ceux qui se font servir en anglais, des fois, c'est sûr que
c'est parce qu'on a des statuts différents, Guylaine. Le Canada est censé, je dis bien censé, être un pays bilingue. Et le Québec est une province strictement française. Alors, je comprends les régions, mais on va parler justement des différentes régions avec mes invités. Je veux juste prendre un autre appel avant. On a Pierre. Merci, Guylaine. Okay. Passez une belle journée. On a Pierre. Salut, Pierre.
Salut, Dan. Écoute, moi, je vais essayer d'être bref, là. Oui. Moi, je suis d'origine italienne. Oui. Je parle couramment trois langues. Quand je vais dans des pays latins, je ne parle qu'en espagnol. Quand je vais dans des pays ou des provinces anglaise, je ne parle qu'anglais parce que c'est une marque de respect. Et le nombre de fois où je me suis fait dire merci de parler notre langue, surtout dans des pays latins, ça ouvre tellement de portes. Et je ne comprends pas que des immigrants qui viennent vivre ici, qui ont 10, 15 ans de vie ici à Montréal, ne parlent pas un traître mot français. Et quand tu leur parles en français, même si tu parles anglais, là, quand ils s'adressent à moi en anglais, moi, je leur réponds en français comme si je ne savais pas parler anglais. Et on me regarde avec des gros yeux, là, comme « qu'est-ce que tu fais ici à ne pas parler anglais? » Pourtant, on est dans une majorité, une province, une ville à majorité francophone. Moi, je dénonce fortement les mesures aplavantrisme de certains politiciens qui encore ferment les yeux en disant « il n'y en a pas de problème, c'est pas vrai ». On a entendu parler de ça par Gilles Proulx, par le monsieur Legault. Il disait qu'on avait des problèmes au niveau français. Et eux,
oui, je comprends, Pierre, mais là-dessus, on vient juste d'en discuter, justement, et je trouve que c'est justement un problème politique. On peut pas reprocher aux immigrants de pas parler français ou de mal parler français à partir du moment où on n'a même pas pris la peine de leur enseigner. Il va avoir beaucoup d'ajustements à faire là-dessus. Merci beaucoup, Pierre. Mais ça soulève une autre question. Je reviens, messieurs Bolduc et monsieur Laporte. Je vous reviens à d'abord l'Internet, qui est une porte d'entrée de l'anglais partout dans nos maisons, et aussi de ce phénomène, on dirait, d'un peu ghettoisation. Je veux pas parler des immigrants, je parle de se retrouver un peu par groupe et un peu partout au Québec. Ça a l'air, en tout cas, des appels des invités qu'on a eus tout à l'heure, ça a l'air à changer beaucoup par région, et ça me rappelle beaucoup Paris. Quand j'allais faire des shows à Paris, je vois plus bien là, mais quand j'y allais, je constatais à chaque fois que chaque arrondissement de Paris pouvait vivre toute sa vie séparément, sans vivre avec les autres, parce que c'était tous des villes, c'était des arrondissements qui étaient des villes indépendantes, littéralement, où tu trouvais absolument tout. Donc, ils n'avaient pas besoin beaucoup de se croiser. Et ça crée un phénomène de ghettoisation. Croyez-vous que, par exemple, Montréal est devenu comme ça? Est-ce que Montréal s'est ghettoisé?
Si vous permettez, M. Bigras.
C'est lequel des deux qui me parle? Excusez-moi, je suis à radio.
C'est Maxime.
Oui, Maxime. OK, merci. Merci beaucoup.
Alors, ça, c'est une question de gestion du pluralisme là, dans nos sociétés modernes, d'intégration, de vision de l'intégration. C'est une chose, évidemment, sans un lien avec la langue. Et là, c'est parce qu'on va un peu dans tous les sens. Je voulais juste reprendre un peu les propos qui ont été dits précédemment et essayer de recadrer un peu le combat linguistique, du moins tel qu'on le conçoit au mouvement Québec-Français. Vous savez, nous, par exemple, les cours de francisation, là, c'est fondamental. Nous, on a à peu près une dizaine de projets en francisation, évidemment, pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants et leur apprentissage du français. C'est formidable. Mais le combat pour la langue ne se réduit pas au cours de francisation. Vous savez, moi, je peux aller suivre, je vais être un peu ironique, un cours de latin, hein, et apprendre le latin. Mais ça ne va pas empêcher que le latin, c'est une langue morte.
Alors, ah oui, vous ne parlerez pas beaucoup au centre-ville de Montréal.
Ben, d'après moi. Le but là, du combat pour la langue, c'est de faire du français une langue vivante. Et le combat pour la langue ne se réduit pas non plus, là, vous allez peut-être être étonné, à la revendication de droits individuels d'être servis en français. Ça, c'est un peu une logique minoritaire. Mais la loi 101 ne répond pas d'une logique minoritaire. Le but de ce combat, c'est pas de demander des droits ou de revendiquer ou de quémander des droits, c'était, en tout cas, de construire un pouvoir francophone en Amérique du Nord. Alors, comme disait René Lévesque, le but, c'est faire du français la langue de la pièce. Et mon ami syndicaliste, je suis sûr qu'il va être très heureux d'entendre ça. Faire du français la langue de la pièce, donc la langue...
Il vous a pitché une petite pierre, là.
Donc, c'est la langue utile, le français. Il faut faire du français la langue utile et la langue du travail. Parce que si le français n'est pas la langue utile, alors on ne parvient pas à en faire la langue commune. Alors, bien sûr, la qualité de la langue va se voir altérée, hein? Tout ça est très lié. Le statut de la langue, la qualité de la langue, Ça, là, ce sont des phénomènes, ce sont des enjeux qui sont parfaitement liés l'un à l'autre. C'est toujours la langue, si vous voulez, pour parler un peu en termes schématiques, du dominé, là, qui se voit altéré par rapport à la langue du dominant. Grosso modo, là, mm-hmm. il y a juste les francophones au Canada qui parlent franglais. Vous allez à Toronto, les anglophones, ils ne parlent pas franglais. Hein? Donc, tout ça est lié. Donc, construire un pouvoir francophone, ça exigeait une reconfiguration institutionnelle.
Mais c'est ce que je disais quand je disais que c'était notre identité.
Ouais,
c'est notre identité profonde. Et puis, écoutez, vous dites que c'est pas spécialement dans un commerce où on refuse de nous servir en français. Non, mais ça devient généralisé. Et là, c'est pas juste un cas. Je crois que c'est symptomatique d'autre chose qui est beaucoup plus sociétaire. Ceci dit, je suis obligé d'aller à la pause, mais on va continuer ça au retour et on va prendre des appels du public encore.
Au réseau Cogeco, vous écoutez.
Je vous répète la question de deuxième heure. Est-ce qu'on exige de vous que vous parliez anglais au Québec? J'ai toujours avec moi au téléphone M. Denis Bolduc, qui est secrétaire général de la FTQ, et Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec-Français. Et on va prendre quelques appels tout de suite. Je veux vous entendre, j'y tiens beaucoup. On a Régent. Salut, Régent.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, je parle en anglais parce que mes clients sont tous américains pour la plupart, là, donc très peu de Québécois. Là, une entreprise est bâtie comme ça. Mais okay. Toutes nos réunions à l'interne se font en français. Donc,
ça m'apparaît une bonne balance, ça. Je ne sais pas ce que mes invités peuvent en dire, mais on s'est tous mis d'accord, je crois, sur le fait que si tu travailles en commerce international, oui, tu dois travailler en anglais, mais c'est pas une raison pour travailler en anglais au bureau entre francophones. Là, c'est vous illustrez exactement ce qu'on essayait d'expliquer depuis tantôt. Moi, je trouve ça très bien, ça. Cette répartition du français et de l'anglais à ce moment-là est correcte.
Puis moi, mes clients viennent de la Nouvelle-Angleterre, du nord de l'Ontario, de la Louisiane. Puis c'est tous des endroits où il y avait beaucoup de francophones. Maintenant, là, la nouvelle génération, ma génération, leurs enfants ne parlent pas français. Ils ont tout perdu. Il y a des villes comme dans le Maine, je ne sais pas si les gens sont au courant, qui s'appelle Frenchville, une ville comme Lewiston. Des églises sont entièrement francophones à l'intérieur. Donc, il y a plus d'un million de Québécois qui ont déménagé dans le Maine. Aujourd'hui, la population du Maine est de 1,4 million. Puis juste pour montrer, là, tous ces gens-là se sont fait assimiler. Tous.
C'est un énorme problème dans tout endroit, spécialement au Canada. C'est censé être un pays bilingue et ça ne l'est pas. Mais on s'aperçoit que les jeunes, effectivement, se démotivent. Leurs parents insistent pour qu'ils parlent français, puis à l'école, surtout que tout le monde a le dos tourné entre eux autres, ils se parlent anglais. On perd du terrain là aussi. Merci Régent. On a Delphine. Oui. Salut Delphine.
Oui, bonjour Dan. Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui. Dan, en fait, ça m'interpelle parce que moi, ça fait, je veux juste vous dire, moi, ça fait 25 ans que je suis au Québec. J'ai passé moitié de ma vie en France, moitié de ma vie ici. Quand je suis arrivée il y a 25 ans, on me disait « Ah, t'es française, tu parles l'anglais ?» Oui, en effet, mais pas dans le sens que vous l'entendez. Et en fait, moi, j'ai remarqué que... Moi, je suis pour, évidemment, de bien parler français et je parle l'anglais aussi. D'ailleurs, avant d'arriver au Québec, à la Délégation générale du Québec, on nous disait « Il faut être bilingue si on veut percer, en tout cas dans le travail. » ce qui est mon cas, donc je suis bilingue. Par contre, oui, j'opte pour évidemment le français. Et malheureusement, c'est vrai qu'à Montréal, oui, quand on appelle, c'est vrai que l'anglais est très présent. Mais je voudrais vous donner deux anecdotes. Vous savez, ça passe par l'école et par la maison, par l'éducation, bien par sûr. La parole. Et moi, je me rappelle. J'étais allée chercher la fille d'Anali à l'école et à un moment donné, j'attendais et je regardais une exposition que les élèves avaient fait et c'est une exposition avec une pancarte, avec des photos et puis il y avait des commentaires dessous et je voyais les commentaires, c'était plein de fautes. Et là, j'ai interpellé une personne gentiment, je lui ai dit, écoutez, c'est super beau l'exposition, mais je vois plein de fautes de français. oh ben écoutez, les élèves on fait beaucoup d'efforts, on veut pas, en gros j'ai compris qu'il fallait pas les traumatiser, pratiquement fallait leur rien dire parce que ils avaient fait un bel effort de faire cette exposition là. Alors il y a cette approche là d'aller jusqu'au bout des choses qui n'est pas là pour corriger le français. Mais la même chose aussi au niveau des profs. À un moment donné, j'étais au téléphone avec le prof de l'école secondaire de ma fille et on parle. Et bon, il se vantait qu'il faisait une maîtrise en français. Moi, j'en ai jamais fait. Et qu'il faisait une maîtrise en français. Bref, il envoie par l'intermédiaire de ma fille un article disant en fait pour alimenter le débat. Alors on sait le participe présent, participe passé. Au Québec c'est assez problématique, les gens ne savent pas la règle. Et le prof il met pour alimenter E accent aigu. Alors là moi évidemment ça m'a fait rire. J'ai bien entouré et je l'ai renvoyé à ma fille et évidemment il a quand même répondu gentiment. Il dit oh que je suis honteux. Donc tout ça pour vous dire que c'est une éducation de ça vient de l'école, ça vient. Et si ça part pas de là, si ça part pas de la maison, c'est sûr que les
il faut que ça parte le plus jeune possible. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai une question pour vous, Delphine, qui est plus personnelle. Oui. Vous avez est-ce qu'on considère un accent français ici, qui est très joli d'ailleurs? Est-ce qu'en France, on vous dit pas que vous avez un accent québécois? Parce qu'à un moment donné, je crois, quand on déménage de pays et on se promène, je crois qu'on a un accent partout. Est-ce que ça serait possible?
En fait, moi, mes parents, après quelques années, m'ont dit « Ah, t'as un accent québécois ». Donc, je sais qu'on le perçoit comme on entend mon accent français ici, oui.
C'est votre question. Oui, c'est ça. Non, c'est parce que vous n'êtes pas le seul de mes amis français qui ont à vivre cette espèce de dualité-là, où ils n'ont jamais, on dirait, l'accent qui est requis à la bonne place, alors que ce sont des gens qui s'expriment très, très, très bien.
On a une langue qui est très riche, et malheureusement, au Québec, le vocabulaire est très pauvre. Les synonymes, ici, on ne les connaît pas. Et si on apprenait un peu plus le vocabulaire... c'est vrai, même aujourd'hui, quand on dit que les Français, quand on écoute les Français, on dit que les Français parlent l'anglais, mais n'empêche que vous écoutez les Français parler et sans attention. J'adore le Québec, j'adore, mais c'est vrai que du côté français, c'est très pauvre, malheureusement.
Il reste du travail à faire. Merci beaucoup, Delphine. Passez une belle journée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Je m'adresse à mes invités, Denis Bolduc et Maxime Laporte, pour conclure ça. Elle parlait de bien parler français. Alors, évidemment, elle a un français très francophone, ce que je comprends bien. Il y a l'autre sorte de français que moi j'appelle le français québécois et même le sacre qui est très 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 mal vu. Moi je fais attention ici à la radio parce que je suis pas chez moi, mais quand je suis chez nous je suis un petit peu plus religieux mettons et sans en mettre à chaque phrase quand même un peu plus et je crois que c'est un peu tous ce qu'on fait. Mais notre français québécois, parce que moi une langue d'un peuple, on n'est pas des Français nous. On a été des Français il y a 400 ans, maintenant on est des Québécois. Qui ont une propre histoire, puis il me semble que la langue devrait refléter la réalité du peuple. Qu'est-ce que vous en dites?
Écoutez, j'ai abordé un peu le sujet précédemment, là, mais encore une fois, vous savez, la France est un pays, disons, qui a été un vaste empire. Hein? C'est un pays puissant encore aujourd'hui. Le Québec a une histoire.
Je vais juste vous demander de faire ça rapidement. On est presque au bord, rendu aux nouvelles.
Bien sûr.
Je suis désolé.
Ce que je veux dire en résumé, c'est que pour toutes ces raisons historiques, évidemment, la qualité du français n'est pas toujours au rendez-vous, bien qu'il ne faut pas mépriser l'accent ou le parler québécois, parce que comme un menuisier avec son aiguine, s'il ne se sert pas de son aiguine, il ne va pas l'affiner, il ne va pas l'aiguiser, c'est la même chose. Donc, l'objectif, c'est que la langue française soit la langue utile, incontournable, nécessaire, et ça, ça passe par des mesures législatives, en l'occurrence un renforcement de la loi 101. Donc, cet automne, on va sans doute avoir un débat entourant un renforcement de la loi 101, enfin, et puis ça va être l'occasion, une occasion inouïe pour
essayer de
cheminer pour régler le problème de la langue.
Merci beaucoup. Je remercie donc M. Maxime Laporte. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Monsieur Maxime Laporte est président du mouvement Québec français et Denis Bolduc qui est secrétaire général de la FTQ. Merci beaucoup, Monsieur Bolduc aussi, de nous avoir éclairé de vos lumières. Et puis, on va tous travailler notre français, mais c'est pas notre français individuel, c'est vraiment notre français québécois comme société. On peut tous avoir des incidents malheureux d'être servi en anglais dans un restaurant, mais je veux savoir si c'est régionalisé, puis si on est en train de perdre notre français, ou si c'est juste quelques petits détails. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Moi, je reviens demain, pour voir les nouvelles, et puis tout de suite après, c'est Jean-Luc Mongrain. Prenez bien soin de vous, et à demain.